Dany Laferrière est avec nous aujourd'hui. Très heureuse de le voir parce qu'il part partout. Il est en France depuis un petit bout de temps. Enfin, il est un petit peu partout. Et il vient de sortir un livre qui s'intitule donc Traité, hein, petit traité sur le racisme. Donc, bonjour Dany.
Bonjour Sophie, ça fait longtemps. Hein.
Très longtemps.
Je me souviens, c'était à 4 saisons. Et puis, on a eu un long cheminement ensemble. Je me souviens de ton père. J'allais chez lui. Je ne sais pas si tu habitais à l'époque avec lui. Et qu'on se rencontrait souvent, c'était toujours un plaisir. Tu as fait un petit court-circuit. J'ai dit court-circuit, pas du tout. Un chemin en politique, oui. Et j'étais suivi, accompagné, et puis oui. Toutes sortes de choses.
Alors, mesdames, messieurs, on va mettre le tu, parce que sinon, ça va être un petit peu artificiel, le vous.
Oui, oui.
On va se tutoyer. Il y a un amour réciproque, tous les deux.
Tout à fait.
Tout à fait, qui est là. Se traiter a été quelque chose de très important pour toi. Je suis passée au travers et je me rends compte que c'est une sortie très forte au niveau de ce qui s'est fait en Amérique sur le racisme et ce qui se fait tout le temps. Une phrase, plusieurs citations, une phrase qui dit « ça va prendre du temps, un petit peu de temps, beaucoup de temps, mais il faut continuer à se battre ». C'est ce que tu penses, Dany? Ça va prendre encore beaucoup de temps?
Oui, vous savez, la plupart des luttes durent très longtemps. Ce qu'il faut faire, c'est que de temps en temps, on peut changer de paradigme. On peut laisser la place à l'autre aussi de dire son mot dans cette lutte. Moi, je disais toujours, quelle que soit la lutte, que ce soit le féminisme, le racisme, ou la lutte des autochtones, et il faut toujours aménager un espace pour que l'autre puisse parler aussi, lui donner la possibilité de dire qu'il n'est pas celui qu'on croit ou celle qu'on croit. Et ça, c'est très important. C'est comme si vous faites 10 ans de lutte et puis pendant une année, vous vous taisez, vous donnez à l'autre la possibilité de s'exprimer là-dessus.
Comment il a été écrit ce livre? Parce qu'on apprend beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a des pages d'histoire, tu reviens en arrière avec des personnages américains, soit des bons personnages ou des mauvais personnages, comme on parle du Ku Klux Klan, tout ça. Donc comment il a été écrit et dans quel but, quand tu l'as fait, dans quelle disposition tu étais?
Le racisme généralement est asphyxiant. C'est un espace clos, fermé, avec des gens d'un côté ou de l'autre, très, très têtus, qui s'opposent, qui opposent leur idéologie. Il se trouve, comme je l'ai dit dans ce livre, que l'esclavage, le racisme n'est pas une option. C'est pas vous pouvez faire ça, ou bien vous pouvez faire ça, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est un scandale, c'est inacceptable.
Oui.
Et j'ai voulu écrire un livre avec des fenêtres, plein de fenêtres, plein, que ce soit très ouvert dans la forme. Il y a des textes très courts et qui prennent un espace très réduit sur la page, ce qui permet au vent de circuler dans le livre. Et cette luminosité que ça crée permet au lecteur de circuler sans angoisse, sans grand malaise. Parce que, d'une certaine manière, c'est gagné dans le sens que j'ai écrit ce livre, les gens me parlent de lumière qu'il y a là-dedans, alors qu'il y a des passages qui sont très forts, très directs.
Oui, très forts, très durs aussi.
Oui, très durs, très durs. Oui, oui. Mais ça paraît moins parce que c'est dit, cet espace d'ailleurs formel de la page, et ça adoucit que si c'était des textes très compacts où j'avais, disons, explicité un peu, aller plus loin même qu'une explication, et apporter des arguments l'un sur l'autre comme si je débattais violemment dans un salon avec quelqu'un qui s'opposait à mes idées. Donc il n'y a pas ce côté-là. Les phrases directes, très dures, très crues contre le racisme, et parfois les racistes, alternent parfois, disons chaque 10 coups de poing, alternent parfois avec une caresse, ou bien la possibilité à l'autre aussi de dire, c'est un monologue où j'entends l'objection aussi. Et je laisse passer l'objection, comme ce texte où ma belle-mère est avec son petit-fils, qui est un joueur de football américain, bien bâti, noir, et qui vit à Miami, et qui passe dans un quartier noir. Le type est énormément construit physiquement, et il monte la vitre. Et ma belle-mère lui dit, mais comment ça se fait, Richard, tu montes la vitre, et c'est des noirs. Il dit, oui, mais je ne connais pas ceux-là. Et ça paraît banal, mais c'est très fort, c'est-à-dire, la question du racisme n'est pas toujours une question de couleur. Et l'autre, il n'est pas raciste contre eux. C'est une mauvaise analyse de croire que tous les Noirs s'aiment.
Oui,
et que tous les Noirs sont gentils avec les Noirs.
Oui, ça c'est un tabou que tu déboulonnes dans ce livre-là. Tu dis, eh ben, tous les Noirs ne sont pas, ils s'aiment pas, et puis pourquoi pas ?
Non, le bien n'est pas chevillé à un groupe ou à un truc.
Exactement.
Et c'est très important de le dire parce que c'est une petite chose intime qu'on tait généralement, parce qu'on est souvent dans ce genre de débat, dans l'idéologie. Il ne faut pas donner une information que l'autre n'avait pas besoin d'avoir, qui pourrait se retourner contre nous. Et il y a un autre texte aussi qui s'appelle « Entre nous », où je dis, par exemple, que la plupart des Noirs qui sont tués le sont par des Noirs, comme la grande part des Blancs le sont par des Blancs, comme la plupart des viols se font en famille. Donc tout se passe entre nous, généralement, dans la société en général. Et ce microcosme familial, les voisins sont compris là-dedans, et c'est un espace de vie excessivement vivant, actif, et qui comprend tout. Les bonnes choses et les mauvaises choses. Donc si on veut analyser ça, c'est pas tout le temps la droite, la gauche, les riches, les pauvres, et les noirs, les blancs, les femmes, les hommes. C'est aussi comment ils vivent entre eux.
Tu dis que l'écriture peut être la chose la plus dangereuse du monde.
Oui, c'est dangereux parce que c'est quelqu'un d'autre qui me l'a appris très bien. Il s'appelle Frédéric Douglas. Oui. Frédéric Douglas, avant la guerre de sécession, et c'était un noir d'une famille noire, esclave, et si chétif que même sa famille d'esclaves ne l'a pas reconnu, et que l'enfant était un peu comme ça à la dérive. Finalement, une famille l'a acheté, ou emprunté, ou volé, je ne sais pas quoi. Il s'est retrouvé dans une famille, un couple, un homme et une femme. La femme était si fantaisiste, si tête en l'air, si humaniste, qu'elle n'était pas au courant de l'esclavage. Donc, il a vu un enfant, il l'a élevé comme son enfant, comme maintenant. Et donc, il lui a appris, elle a essayé de lui apprendre à lire, parce que c'est la meilleure chose à faire avec un enfant. Tout enfant doit savoir lire, et si on peut lui apprendre. Et puis un jour, elle était en train de lui apprendre à lire, le mari arrive et se fâche contre sa femme qu'il adore. Et sa femme était étonnée, elle lui dit « Comment ça se fait ?» Il dit « Mais tu apprends à lire à ce petit enfant-là, ce petit nègre, c'est notre trésor. Si tu lui apprends à lire, il ne travaillera plus pour nous. Il va comprendre le monde, il va se révolter contre nous. Et vous mettez en question non pas notre économie, mais celle de tout le monde blanc en faisant cela. » Et là, Douglas est conclu. Et ça lui est resté dans la tête, il ne conclut pas tout enfant. Plus tard, il raconte, il dit, j'ai appris au même jour que c'est une chose magnifique, que cette femme qui a été la femme, la meilleure personne que j'ai rencontrée de toute ma vie, dit Douglas, et m'a appris une chose merveilleuse qui est la lecture, et son mari m'a appris que la lecture est la chose la plus dangereuse au monde. Dans une journée, j'ai appris les deux choses les plus importantes. Il est devenu le plus grand orateur du 19e siècle américain, noir, blanc confondu, diplomate, il a été en Haïti aussi. Et donc c'est ça. Et c'est pas une phrase comme ça, c'est une chose dangereuse que de savoir lire, c'est une chose dite par Frédéric Douglas, ancien esclave, et dont d'ailleurs la traduction de son livre « Mémoire d'un esclave » a été faite en français par un Québécois, un de mes amis, oui.
J'ai beaucoup aimé lire le mot « lutte », que la lutte reste à faire. Tu n'as pas eu peur des mots, tu n'as pas eu peur de dire qu'il reste des luttes. Et notamment dans cette phrase, quand tu dis « quand une femme dit non, vous devez arrêter. Quand un noir dit non, j'étouffe, vous devez arrêter aussi. »
Oui, tout simplement. C'est très difficile à accepter l'autre comme un être humain. Et c'est des fois, ça demande beaucoup de choses. Je me souviens avoir vu à Radio-Canada qui avait fait un reportage en Haïti. On le voyait, un petit garçon, en train de faire pipi ou je ne sais pas quoi, sur une montagne de détritus. Et on l'a filmé, il faisait pire que faire pipi. Et les Américains appellent ça « number two » pour les enfants. Mais je devais faire une interview à Radio-Canada, j'ai dit je refuse si vous n'enlevez pas cette image.
Exactement.
Vous n'avez aucune idée, c'est un acte intime. vous ne pouvez pas rentrer dans son intimité parce qu'il n'a pas d'endroit fermé. Vous le filmez. Dieu seul sait combien vous prenez des gants quand vous allez filmer à Outremont ou à Westmont ou à Ville-Marie ou à Ville-Mont-Royal. Et là, vous ne prenez aucun gant. Il ne vous voit même pas. Il ne vous a pas accordé de droit. Il a un droit à l'image aussi. Vous n'êtes pas au courant. Et que je comprends bien, puisque ça m'est arrivé moi dans ma vie, de croire que l'autre n'existe pas. Mais il faut faire attention. Et surtout parce que le regard que vous jetez sur lui, c'est le regard que vous jetez sur vous. Comme ils sont tous les deux, vous et lui, de la même espèce, ce que vous pensez de lui, c'est exactement ce que vous pensez de vous. Que vous donnez la possibilité à un autre de vous regarder comme ça. Parce que pour quelqu'un d'autre, vous n'êtes qu'un pauvre petit employé qu'il peut renvoyer à tout moment. C'est exactement la même situation. Plus vous lui donnez pouvoir, si vous dites par exemple à la télévision, je ne peux pas passer cette image parce que ce petit garçon est peut-être seul, il donne d'eau, on ne le voit pas, il est là, il est livré au vent, mais je crois qu'il a droit à son intimité, à son image. Vous allez voir, les gens vont vous prendre plus au sérieux aussi. Votre image et votre intimité.
Martin Luther King, l'admiration sort là dans le livre. On le sent, il est à travers toi, il chemine à travers ta vie. Et tu dis que c'est un être excessivement intelligent, un orateur incroyable. Et il y a une espèce de comparaison au niveau de ce qu'il a livré en 1963 et René Lévesque en 1980.
Tout à fait, tout à fait.
Alors, cette comparaison, c'était... Tu as beaucoup aimé l'humilité de René Lévesque. Pourquoi cette comparaison, finalement?
Ben, c'est des hommes qui ont assisté à leur échec sans faire de bêtises, sans devenir inélégants. C'est des hommes qui ont vu des situations impossibles et qui ont cru qu'on peut gagner par l'élégance. Parce qu'on ne gagne jamais immédiatement par l'élégance. Ça se fait par réverbération. Il y a chaque jour à Montréal, au Québec, quelqu'un qui dit « Et si je comprends bien, vous m'avez dit... » Et il dit ça à quelqu'un d'autre qui vient de l'insulter ou bien de ne pas accepter ce qu'il présente, qu'il propose, ou bien il vient d'avoir un échec comme professeur pour renouveler ses cours, comme ministre ou n'importe quoi. Et il ne le dit pas, mais ça se passe dans sa tête. « Si je comprends bien... » C'est-à-dire que c'est une phrase... Oui, il accepte, il croit à la démocratie et il croit surtout au temps. C'est ça, c'est l'élégance du temps. D'ailleurs, c'est la seule petite différence avec Malcolm X et qui était pressé. Mais l'empressement, la célérité, la vitesse de Malcolm X donne la force à la lenteur de Martin Luther King. Donc les deux, c'est la même médaille. C'est l'un donne, c'est comme pour le voyageur n'existe que quand il rencontre celui qui n'a pas voyagé et à qui il peut raconter le voyage. Le voyage n'existe que si on le raconte. Donc Martin Luther King et Malcolm X. Et quand j'ai comparé ces deux individus qui ont répondu avec une telle sérénité face au moment tragique de leur vie, et j'ai dit, bon, Martin Luther King a quand même plus ou moins gagné et René Lévesque a vu momentanément sa vision du monde s'effondrer et lors du premier référendum. Et il a gardé cette élégance et c'est cette élégance qui a consolé les Québécois pendant des décennies. Et même ceux qui étaient contre l'indépendance ou le oui du référendum, ils se sont sentis consolés d'avoir un homme important parmi eux. Nous sommes comme ça, les humains. Et d'avoir un homme. Moi, j'ai vu un ministre et un Totomacout qui était en Haïti. Et j'allais rentrer, c'était sous Duvalier. Et il y a un journaliste français qui lui demande, est-ce qu'il y a un bon journaliste qu'on peut écouter à la radio? Je viens d'arriver, j'ai envie de savoir, avoir le pouls du pays. Il dit, Marcus, c'est un salaud, il est contre le gouvernement, je vais le tuer n'importe où. Mais j'ai dit à mon fils, écoute Marcus, lui sait de quoi il parle. C'est-à-dire que c'est ce truc-là, on est là-dedans, et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des individus qui supplombent l'affaire. Et tout le monde ne peut pas le faire, et tout le monde n'a pas à le faire non plus, il faut qu'il y en a qui mettent la main dans le cambouis. Mais ceux qui prennent cette charge-là avec force et gagnent finalement. Martin Luther King, juste une petite chose, au moment où il a fait son discours, il parlait bien, il est un homme brillant, il est un ancien pasteur, donc il sait comment haranguer la foule américaine, mais il sentait que le discours allait dans le mur. Et c'est Mahalia Jackson qui était pas loin, qui a dit « Martin, dis-leur le rêve, ton rêve !» Parce qu'elle se souvient que Martin Luther King avait fait un discours, il avait parlé d'un rêve dans une petite salle d'église. Et là, Martin Luther King lui a fait un clin d'œil. Rêve de rêve. Et c'était parti.
Oui. En parlant des mots, pour toi c'est très important les mots. Tu nous dis que les mots n'ont d'importance que par le lieu. Donc on pourrait dire la même chose pour « nègre ». Ou bien, donc, c'est le lieu qui est important. C'est le lieu qui donne de l'importance au mot.
Les individus ne peuvent pas refuser un mot. Il n'y a pas de mot qui ne soit pas plus vieux que la personne qui l'emploie. S'il parvient à vos oreilles, c'est qu'il était avant vous. De quel droit vous lui refusez? Ce sont des choses qui ont couru de bouche en bouche. Et dans, les mots ne poussent pas, c'est pas des arbres, c'est pas des, ça s'achète pas dans un magasin. Ça passe de bouche en bouche. Donc vous voyez la patience qu'un mot qu'exige pour arriver jusqu'à votre bouche à vous. Donc c'est pas le mot qu'il faut contester, c'est ce qu'on en fait avec. C'est le moment aussi d'ailleurs. Il y a des moments où un mot libère et le même mot peut aussi emprisonner et écraser et dans un autre contexte. Donc le mot, c'est pour ça que j'étais contre d'ailleurs la sortie, enlever le mot nègre, c'est inacceptable, vous n'en avez aucune idée. D'ailleurs, l'un des lieux d'origine de ce mot, c'est le fleuve Niger. C'est les gens qui ont vécu le long du fleuve Niger. Donc vous voyez, c'est un mot très beau d'abord, le mot nègre. C'est un mot avec, académicien de la commission du dictionnaire, je ne peux pas apprendre un mot pour ce qu'on en a fait, les définitions qu'on lui a données. Et par exemple, en Haïti, ce mot est très employé. Il y a un greu qui est là-dedans, la nègre, qui lui donne une force verbale qui ressemble à l'egba. Ce sont des mots excessivement forts, on ne peut pas faire l'économie. Et comme je l'ai dit dans une petite entrevue, si vous enlevez tous les mots qui ne vous intéressent pas, on n'aura plus de drame. Comment on va dire le drame? Comment on va dire les choses?
Tout à fait juste.
Oui, il y en a un que vous dites ça, on devrait l'enlever. Mais si on commence, on ne s'arrête pas.
Ouais.
Donc, laissez les mots vivre et qui permettent aux gens de s'exprimer.
Dans leur histoire et dans leur lieu.
Ah bah absolument.
Dans leur histoire et dans...
Absolument. Et puis là, maintenant, les conséquences. Ceux qui disent ça pour une insulte, ceux qui veulent écraser, humilier, ils paieront les conséquences. On a des tribunaux, on a toutes sortes de choses.
Alors, il y a des rires aussi dans ce livre, et ça me fait rire. Quand on te téléphone à 2h du matin pour dire de retirer un titre de ton livre. Alors, je vais te laisser raconter aux auditeurs qui n'ont pas eu la chance encore de lire le livre, mais ça m'a vraiment fait rire.
Vous savez, il y a le mot nègre, mais aussi, c'était un texte un peu pour expliquer ce qu'on appelle l'appropriation culturelle. Moi, je suis le champion de l'appropriation culturelle. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Je suis un écrivain japonais ».
C'est ça,
alors,
exactement.
Les écrivains japonais ne sont pas contents.
Ils t'appellent à 2h.
Quelqu'un me téléphone à 2h, mais c'est parce que les gens qui appellent de l'étranger ne regardent pas. Et ils me disent « Est-ce que vous voulez retirer ce titre de votre... » Enfin, de la librairie, et ensuite de votre bibliographie. J'ai dit mais à quel sujet? Il me dit, je travaille pour l'État japonais et plus précisément pour l'association des écrivains japonais et que vous les mettez en péril. C'est vrai,
c'est ça.
Mon livre est paru en japonais d'ailleurs. Dès que vous dites japonais livre, c'est mon nom qui arrive parce que c'est écrivain japonais. Je suis un écrivain japonais. Dès que vous cherchez écrivain japonais sur Internet, j'arrive. Dans toutes les langues. Et là, j'ai dit, mais écoutez, c'est pas comme ça que vous pouvez faire ça. je ne suis pas, mon livre n'est pas un best-seller, donc je ne fais pas ombrage à la littérature japonaise. C'est un titre que je trouve bien. Il me dit, sinon, on fait un procès. J'ai dit, écoutez, comme ça, vous parlez à un pauvre noir qui ne vous a rien fait, alors que vous, avec vos bateaux usines, vous asséchez les mers haïtiennes et vous prenez tous les poissons, et puis parce que vous êtes de grands mangeurs de poissons. Mmh. Il dit, ah, vous êtes noir. On ne m'avait pas dit ça. Oh là là, noir, Haïti, exil. Oh là là, tremblement de terre. Ah non, non, excusez-moi.
Excusez-moi. Et ça s'est terminé comme ça, finalement.
Finalement, il me dit, si jamais vous voulez venir au Japon, vous pouvez passer un mois à nos frais, quoi.
Alors, y a
donc la... ça va ça, des fois.
Donc, mais moi, c'était drôle parce que je m'attendais à lire à 2h du matin de l'autre titre, que, Comment faire l'amour à un ex sans se fatiguer. Mais là, oui. Finalement, c'est le japonais.
Ah non, 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 parce qu'ils l'ont publié aussi au Japon et mon traducteur m'a dit, il n'y a pas l'expression nègre en japonais, il n'y a pas à faire l'amour. Il dit ça différemment. C'est nous qui sommes des gens très brutaux. Mais le titre est exactement pareil. J'ai dit, bon, il faut être japonais ou bien avoir la foi pour croire que comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer, on peut le traduire exactement pareil quand il n'y a pas le mot nègre ni l'expression faire l'amour.
Alors, une dernière chose avant que je voudrais parler de Miles Davis, que tu connaissais bah, plus ou moins, il y avait comme cette espèce d'intrigue, est-ce qu'il est bien ? Et c'est Stanley Péan qui te l'a fait découvrir davantage, aimer, je dirais.
Oui, 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 Péan connaît bien la musique de Miles Davis, enfin la musique, hein, quand le jazz est là, il est là, et bien sûr. Mais j'avais un ami qui était un fou de Miles Davis, qui faisait la radio la nuit à Radio Métropole en Haïti, et lui, il ne passait que du Miles Davis, c'était une émission de jazz, hein, mais il ne passait que du Miles Davis. Et là, j'ai dit, mais Ézéchiel, c'est pas possible. Les gens se plaignent, ils adorent le jazz, mais quand même, une seule. Il me dit, ben, il est tard, hein, j'ai mon émission, je passe qui je veux. Je ne leur demande pas d'écouter ni de se réveiller. Et j'ai dit, mais Ézéchiel, bon, enfin, je vais laisser tomber parce qu'il y a des gens à qui on ne peut pas expliquer des choses. Mais il a fait connaître Miles Davis en Haïti.
Trump arrive à la page 175. J'avais l'impression que, étant donné ce que tu avais comme mission de parler des États-Unis, de parler des grands, de parler de ceux qui ont fait, qu'il arriverait au début. Il arrive finalement, tu le nommes une seule fois.
Oui, bon. Une fois de trop.
Ouais.
Une fois de trop, il n'y avait aucun intérêt. C'est pour ça que c'est ce que j'appelle changer de paradigme. C'est-à-dire qu'on peut parler du racisme, on peut parler des États-Unis sans nommer Trump. Vous savez, les gens n'ont aucune idée quand les gens sont présents à quel point ils sont là, mais quand ils sont partis, ceux qui n'ont pas de poids, à quel point ils s'effacent vite. Et donc, il faut les laisser partir. Il faut laisser devenir des fantômes. Et bon, il va venir revenir nous embêter comme tous les fantômes dans quelques années. Mais en attendant, on peut comprendre l'Amérique. Malgré ce qu'on a dit, malgré le fleuve d'encre qu'on a écrit sur lui, malgré tout ce qu'on a fait comme émission, malgré le fait qu'il ait occupé nos esprits pendant 4 ans sans cesse, il n'existe pas. Et c'est ça qui est extraordinaire. Il n'existe pas. Le tremblement de terre de Lisbonne a été fait et c'est Voltaire qui a écrit un poème et on ne se souvient plus du tremblement de terre de Lisbonne, mais on se souvient du poème de Voltaire. C'est extraordinaire le poids des mots. Mmh. Et le poids des mots, les mots continuent. Les malheurs des gens sont inacceptables dans le présent, mais tout à fait acceptables dans le temps, alors que les mots continuent leur voyage immobile, serein, impénétrable.
Alors, on ferme, l'auteur est toujours présent, bien évidemment, mais moi, je veux vraiment savoir comment ça se passe depuis 2013, académicien. Moi, je suis souvent fâchée à ce micro avec la France, parce qu'il y a des mots anglais, comme le pass sanitaire. Je suis fâchée, mais comment, Dany, toi qui es un amoureux des mots, comment tu arrives à vivre là-bas ? D'abord, comment tu aimes ton rôle ? Est-ce que tu es à l'aise ? Est-ce que tu es bien avec ces gens-là ? Est-ce que la France, tu aimes ça ? Comment ça se passe ?
La France, c'est très grand. Et moi, je ne suis pas du tout. Je suis dans des minuscules espaces. J'ai toujours vécu dans des espaces extrêmement serrés, fermés, minuscules. C'est de là que j'envoie mes projectiles à travers le monde. Et c'est ça, un écrivain. Eh bien, je suis avec d'autres écrivains, et donc à l'académie, j'adore
comment tu
ça.
Sens
mais c'est magnifique, c'est une chose. Chaque jeudi, moi je passe toute la journée le jeudi, parce que l'académie, il y a la grande séance où il y a tous les académiciens, et il y a un petit groupe un peu de plus passionnés, si l'on peut dire, qui forment la commission du dictionnaire. Cette commission auquel Voltaire, Hugo, Chateaubriand, Valéry... Et cette commission du dictionnaire fait presque le dictionnaire, c'est le tronc. C'est le tronc. Alors, si on veut travailler, on travaille là, j'y suis. Et puis après, on déjeune entre nous. Ce n'est pas infamant de déjeuner à côté chaque jeudi de Michel Serres d'un côté.
On se pince là, on se pince carrément. Là, on
oui,
se dit,
oui, eux aussi se pincent. Hein, ils
et
sont
eux
très
aussi
contents.
Se pincent.
Mais bien,
bah,
sûr,
bien, sûr,
bien sûr, bien sûr. Ils ont à leur disposition quelqu'un qui peut leur expliquer l'Amérique, le
voilà.
Québec, Haïti. Et j'occupe un territoire très vaste. Je suis peut-être l'un des rares, peut-être, j'ai l'habitude de dire le seul de la Caraïbe, ce qui est faux, parce que aussi Maria de Heredia était de Cuba, et très aimée en Haïti d'ailleurs, et puis aussi Dumas.
Oui,
et oui,
oui
les Dumas, d'une certaine manière,
oui,
et,
oui.
Et le fils Dumas, fils n'est pas né en Haïti, mais le père, le grand-père Alexandre Dumas et le général Dumas est né en Haïti, et son fils est resté très lié, et le Dumas père, qu'on appelle Dumas père. Et donc, les Dumas, et puis celui que je remplace à l'académie, on ne remplace pas parce que les fauteuils restent, et Ettore Bianciotti était de l'Argentine. Et donc, moi, je me sens très, très bien. Quant à la situation de la France, inacceptable.
Au niveau de l'anglais.
Inacceptable.
Mais oui, mais oui.
Mais c'est d'un snobisme. C'est-à-dire, le fait, c'est que le drame de l'affaire, c'est que... c'est de croire que parce qu'on a dit un mot en anglais mal prononcé, ils ont des idées très étranges sur comment on prononce l'anglais. Comme Apocalypse Now, ils disent Apocalypse No. Je ne sais pas qui leur a dit, pourquoi personne n'a dit non, on ne dit pas
mais
No ni
il
Now.
Ils parlent très mal anglais, c'est ce
je comprends dit. Pas. Cette obsession-là est presque émouvante. Et de parler mal une langue qu'on voudrait parler absolument et remplacer par des mots.
C'est ça.
Par des mots et là. Donc, ça, on se bat à l'académie, hein, sans cesse. Hein. Non, chaque jeudi, il y a un académicien qui vient. Et il faut dire, au début, honnêtement, j'étais pas trop dans cette lutte, pour une raison très simple. J'ai toujours pris beaucoup de temps avant de me lancer dans une lutte, parce que je crois qu'il faut faire attention à ne pas essayer d'éteindre le feu avec de la gasoline. Et j'ai toujours peur qu'une mode qu'on contre dure plus longtemps qu'une mode qu'on laisse aller. Oh, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas quand c'est une mode. Et donc, ça s'est passé en anglais aussi. Hein. Il y a eu une époque, hein, vous savez, il y a près de 30 000 mots français en anglais. Hein. Il y a eu une époque où c'était cela, où tout le monde avait des mots français. Et puis l'autre point, pourquoi j'étais un peu réticent à entrer dans la lutte, ça me perturbait totalement, bien sûr. Mais c'était que les Français étaient tellement contents quand la France était la langue franche, la franca lingua, en Europe, quand on parlait français un peu dans toutes les cours, à la cour de Russie, à la cour d'Angleterre, à la cour en Roumanie, quand on parlait français partout, le grand chic, c'était le français. Et alors, même à l'académie, les gens disent, mais une fois on parlait français, enfin, c'est presque l'Europe était civilisée. J'ai dit, oui, mais si vous subissez ça maintenant, il faudra vous taire un moment, il ne faut pas s'énerver trop. Sinon, il faudra reprendre l'analyse et dire, quand nous étions des colonialistes de la langue en Europe, il faut s'excuser et non se rengorger.
Voilà.
Parce que si vous ne le faites pas, on ne va pas vous croire. On va croire tout simplement, ce sont des mauvais perdants. Qui se plaignent. Il faut réanalyser l'affaire. Vous continuez à croire que les gens ont un mauvais accent quand ils ne parlent pas avec votre accent. Vous continuez à critiquer avec plus de violence ceux qui parlent votre langue et qui font et qui disent un mot que vous n'avez pas adoubé.
Mais vous mettez de l'anglais à toutes les phrases.
Et vous mettez de l'anglais. Voilà. Vous êtes c'est décourageant. Mais il y a beaucoup de gens qui se battent en France aussi pour garder une langue plus élégante.
Dans ce sens, ton vécu ici au Québec. Québec t'aide énormément à leur faire comprendre la situation, parce que nous, c'est 400 ans de lutte oui. pour préserver notre langue.
C'était le troisième point qui me faisait ralentir aussi, parce que je dis au Québec aussi, j'ai dit, il ne faut pas vous comparer à la France pour une raison simple, vous êtes face à l'adversaire, vous êtes collé au Canada et aux États-Unis. Vous avez un océan, deux océans, mmh. parce que traverser le Canada, c'est mmh. plus, ça prend plus de temps de Montréal à Vancouver que de Montréal à Paris, en avion. Et vous avez en plus les États-Unis. Donc, vous n'avez pas la même sensibilité mmh. face à la question. Mais là, ça dépasse les bornes. Ouais, ça dépasse les bornes. C'est-à-dire que j'ai dit aux Québécois aussi, il ne faut pas, parce que nous sommes angoissés par rapport à notre langue, on comprend. On comprend, parce que le nombre, c'est le mot qu'on a prononcé au début du film Le déclin de l'Empire américain par rapport à l'indépendance de Québec. Ils ont dit mmh. le nombre. Le nombre est fondamental. D'ailleurs, c'est ce que je réponds aux gens qui me disent la question du racisme, pourquoi vous n'avez pas fait sur le Québec. J'ai fait un livre sur le Québec qui s'appelle Tout ce qu'on ne te dira pas, Mongo. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait sur le Québec, vous l'avez fait sur les États-Unis. C'est qu'aux États-Unis, il y a 43 millions de Noirs. Mmh. Au Canada, il y a 38 millions d'habitants. Au voilà. Québec, il y a, je ne sais pas, 8 millions. Donc, oui. ça veut dire que...
Et la question risque, elle n'est pas réglée. On l'a vu, malgré Obama, malgré tout ce qui se passe, on voit qu'aux États-Unis, la question n'est pas réglée.
Ah non, au contraire, même. Sous Obama, ils ont tellement voulu montrer aux Noirs que même si vous avez un président noir, vous ne pourrez jamais régler la question, puisque c'est une question du nombre. Nous sommes plus nombreux. Obama ne peut pas être à chaque carrefour à faire la circulation des races et à temporiser tout le monde. Au contraire, nous allons donner une leçon à Obama et aux Noirs. Nous allons tuer plus de Noirs pendant son règne que n'importe quand. Nous allons être plus actifs. Mais le problème, et c'est là que ma vision du monde, je me suis dit, est-ce qu'il ne faut pas intégrer plus de Blancs dans la lutte contre le racisme ? Mmh. Et au lieu de soupçonner, comme les féministes l'ont fait, de soupçonner ceux qui sont le plus proche de vous, ceux qui ont fait 50% de la bataille, c'est-à-dire que au lieu d'attaquer tout le temps votre chum parce qu'il a oublié de faire la vaisselle, mettez-vous avec lui, allez combattre les vrais.
Oui, comme les hommes féministes, quoi. Oui, oui, dans des organisations où il y a plus d'hommes. Il y a des hommes, qui sont rentrés. Mais ça, c'est intéressant de mettre justement.
Oui, il faut impliquer des troupes fraîches. Et si vous donnez la possibilité, et si vous ne recevez pas les gens comme s'ils étaient des touristes sociaux, et si vous donnez... Moi, ma réponse, c'est le contraire. Je me souviens quand je travaillais un peu à l'usine, j'écrivais, donc j'avais pas de temps, et qu'on me disait, écoutez, il y a un problème de racisme, il faut faire une manifestation. J'ai dit, mais non, pas du tout, c'est pas de mes affaires le racisme. Le racisme, c'est l'affaire des Blancs. Non. C'est eux qui doivent aller manifester contre le racisme. Bravo. C'est eux, c'est un problème qui les regarde. Ils sont malades de ce problème. Bravo. Moi, je suis pas malade, je suis qu'une victime. Donc, je suis pas malade et je ne suis pas victime. Je ne serai jamais une victime. Donc, je ne suis pas malade. C'est leur problème parce que je ne peux pas être à la fois la maladie et le remède. C'est leur problème. C'est à eux de se battre contre le racisme. Mmh. Moi, on devrait me dire quand il y a des manifestations, s'il y a une journée. Le mois de l'histoire des Noirs, c'est un mois où toutes les organisations de Blancs devraient se mettre à donner des propositions pour combattre le racisme et mettre ça en application. Parce que ce n'est pas un problème de Noirs. Je ne peux pas être la maladie et le remède.
Mais au même titre que l'homme violent, qu'on isole la femme qui a été violentée, mais l'homme violent, on ne lui donne pas de thérapie ni rien.
Absolument. Absolument, il faut mettre tout le monde dans le combat et ne pas leur faire comprendre que vous venez un peu en amateur et on vous demande de donner un petit coup de main. Non, c'est moi qui te donne un coup de main contre le racisme.
Haïti, juste ce mot-là. Oh Haïti, là. Qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce que tu ressens, ton émotion? Je ne te demande pas une vision politique, je te demande ta vision en ce moment, aujourd'hui.
Haïti, c'est à peu près 25 livres que j'ai écrits sur Haïti. Donc, c'est l'ensemble de mon travail. Et la question, c'est qu'on me demande de répondre généralement à des questions que j'ignore, puisque je ne suis pas sur le terrain depuis plus de 40 ans. Donc, comment puis-je savoir? Il ne suffit pas d'être haïtien pour savoir ce qui se passe dans la conscience d'un jeune haïtien. Moi, j'ai rencontré un jeune haïtien qui m'a dit une fois, écoutez, Dany, je sais très bien que vous êtes intéressé, vous êtes d'Haïti, vous nous aimez bien, mais je dois vous dire que après 20 ans hors du pays, votre métabolisme a changé. Puisque vous n'êtes pas angoissé chaque soir en entendant des coups de feu, vous n'avez pas faim et votre voisin n'a pas faim, et cela sur 25 kilomètres carrés, c'est-à-dire que du temps où vous étiez ici, la troisième maison peut vous donner un peu de nourriture, et là maintenant, la faim a gagné du terrain. La faim a pris un espace. Ouais. Donc, vous n'avez pas des situations politiques mouvementées, vous ne vivez pas avec la sensation et l'angoisse d'un tremblement de terre surpris, qui vous surprend au lit ou à l'école, et vous n'avez pas 4 cyclones par an, vous ne vivez pas sur la pointe des pieds 24 heures sur 24, vous n'avez pas le même métabolisme que nous. Donc, vous ne pouvez pas savoir. Eh bien, après, à partir de ce moment-là, j'ai décidé de ne pas parler au nom de gens que je ne connais pas, avec qui je peux avoir une grande sympathie. Le sol d'Haïti, le paysage haïtien m'a fait. Et de cela, je sais beaucoup plus que des gens qui n'ont jamais quitté Haïti, puisque j'en suis le poète. J'ai écrit sur l'enfance, l'odeur du café, le charme des après-midi sans fin que les jeunes gens en Haïti apprennent dans les écoles et qui sort chaque année comme dictée aux classes de certificat d'études primaires. J'ai écrit Le goût des jeunes filles qui raconte la situation des jeunes filles, les difficultés, les problèmes créés par la misère et le manque d'emploi qui fait que les jeunes filles de cette époque, on les appelait des lafricheurs parce qu'elles devraient être toujours fraîches, toujours belles dans une ville aussi poussiéreuse que Port-au-Prince, parce que c'était des semi-prostituées d'une certaine manière, la seule façon d'aider. J'ai écrit aussi La chair du maître, j'ai écrit Vers le sud pour parler du goût que des femmes d'un certain âge ont pour la mer, pour le sud, pour les jeunes garçons et pour la beauté et tout ça. Et j'ai écrit Pays sans chapeau, qui raconte le retour d'un jeune homme qui n'a pas encore compris, comme dit ma mère, qu'ici, la moitié des gens ne sont pas vivants, parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour être vivants. Ils ne mangent pas assez, ils n'ont pas de travail, et l'autre moitié est déjà mort. Et que c'était, d'après elle, un pays fictif. J'ai écrit L'énigme du retour, et où ma mère me parle de la douleur en disant, quand elle a mal aux dents, et qu'elle ne veut pas prendre une pilule pour alléger sa douleur, elle m'a répondu, cette petite douleur me fait oublier une plus grande, qui est une vision sur la douleur, autre chose. Donc, le nombre de livres que j'ai écrits sur Haïti, ou ce qui se passe en Haïti, c'est à peu près sur les 32-33 livres que j'ai écrits. J'ai parlé de ma grand-mère pendant... Donc, quand on me demande de parler d'Haïti, je réponds en poète. Et je demande aux gens de lire, de prendre n'importe lequel. Il y en a beaucoup. Et vous aurez une idée de ce que je sais profondément d'Haïti, pas de la nouvelle liée à l'actualité, de ce que je ressens. Et c'est comme, moi je me compare, je le dis honnêtement, parce que je le dis parce que j'ai un grand respect et une admiration pour Vigneault. C'est-à-dire que tu peux toujours dire à Vigneault qu'il ne sait pas rapper ou bien qu'il ne connaît pas le breakdance, qu'il ne connaît pas ce que se dit. Mais il y a un moment, si tu veux comprendre le Québec, tu vas revenir. Et j'ai planté un arbre au bout de mon champ. C'est-à-dire que tu dois revenir
à la source.
D'un glaçon, j'ai fait l'hiver. C'est la poésie moyenâgeuse d'un pays qui est beaucoup plus jeune que le Moyen-Âge. C'est-à-dire, ce sont les poètes qui donnent un arrière-plan, une sorte de profondeur de champ au pays. Nous sommes souvent à la crête des vagues, sur la surface des choses. Nous sommes devant, dans l'instant. Et l'instant, c'est le présent vivant, mais ça n'existe pas s'il n'y a pas une profondeur de champ.
Voilà.
On peut être à la surface sans être superficiel.
Un grand plaisir de t'avoir retrouvé et d'avoir passé ce temps avec toi. C'est toujours aussi agréable. Et on va prendre des nouvelles au fur et à mesure des écrits, bien sûr. Merci.
Oui,
Daniel.
Mais c'est ce qui reste pour un écrivain. C'est la seule chose qui compte. Moi, que l'on soit haïtien, québécois ou n'importe quoi, du point de vue écrivain seulement, pas du point de vue humain, si vous ne m'avez pas lu, vous n'êtes pas plus nécessaire pour moi qu'un Japonais, un Allemand, un Chinois, un Sénégalais qui m'a lu. C'est celui qui lit l'écrivain, qui est en relation avec l'écrivain. Mmh. Quant à la personne humaine, voilà.
La lecture, c'est très intime, tout de même que l'écriture aussi.
Absolument, c'est pour ça qu'on doit juger l'écrivain sur la lecture de ses livres. Et, plus on lit un écrivain, moins on le juge, parce qu'on finit par comprendre que ce que vous lisez vous fait, et non se rapporte à celui qui l'a écrit, parce qu'il n'est plus là. Et vous, vous êtes là avec le livre. C'est quoi ? Pourquoi vous l'avez choisi ? Parce qu'il vous fait dire quelque chose, il fait penser à des choses et il vous signale qui vous êtes.
Et on l'emmène partout. On l'emmène, on le trimballe.
Oh, c'est
j'aime
lui
encore
qui
l'objet.
Vous emmène.
C'est lui
c'est
qui vous
pas
emmène.
Le bout du nez.
Merci, Dany Lafernière.
Merci, chère Sophie.